Chers amis des cellules, bonjour. Je vous propose aujourd'hui de réfléchir sur l'évangile de dimanche prochain, l'évangile de la transfiguration. Avant d'écouter le texte, il est bon de le remettre en contexte. Les apôtres viennent de franchir une étape. Ils ont reconnu le Christ comme le Messie, comme le Fils du Dieu vivant. Et cette reconnaissance ayant eu lieu, Jésus vient d'annoncer pour la première fois qu'il allait devoir souffrir la passion. Les apôtres ont bien entendu Jésus parler de son arrestation et de sa mort, mais ils ne comprennent pas ce que peut signifier ce réveil d'entre les morts. Les apôtres peuvent être troublés, alors même qu'ils étaient dans la joie de reconnaître et d'entendre que Jésus est bien ce Messie qu'ils attendaient. Voilà que Jésus leur annonce que pour le suivre, il faudra prendre sa croix. Qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de lui, celui-là la sauvera. L'annonce de la passion n'est pas une chose simple ou évidente à assimiler. On peut y perdre la foi, on peut y perdre son enthousiasme. Face à ce risque, Jésus donne à trois de ses apôtres un signe de consolation. Lisons maintenant le texte de saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler, qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Le premier élément que l'on peut souligner est que saint Luc nous montre Jésus en prière. C'est l'une des caractéristiques particulières de l'évangile selon saint Luc que de contempler Jésus en prière. Et il n'est pas anodin pour nous de voir que le Fils de Dieu, lui qui est Dieu lui-même, dans son humanité, prend régulièrement du temps pour prier. Alors si lui, dans son humanité, a pris le temps, a eu le besoin d'être en prière pour accomplir sa mission, combien plus nous-mêmes, nous devons ponctuer notre vie de ces temps de prière, de ces temps où nous nous remettons devant Dieu, de ces temps où nous nous mettons devant le Père, où nous attendons notre vie du Père en nous joignant à cette prière de Jésus. C'est peut-être le premier enseignement que l'on peut retenir. Celui qui veut suivre le Christ doit insérer la prière dans sa vie comme le Verbe incarné lui-même l'a inséré dans sa vie. Le deuxième élément que nous pouvons relever est cette transformation du visage de Jésus. Son visage devint autre, son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voilà que Jésus, devant eux, est transfiguré. Il est important de noter que ce rayonnement saisit l'humanité de Jésus, et saisit l'humanité concrète de Jésus jusqu'à ses vêtements. Qu'est-il en train de se passer ? Il nous est donné de voir une humanité glorifiée. Il nous est donné de voir une humanité saisie, complètement saisie par l'Esprit Saint. Il nous est donc donné de voir ce que notre humanité est appelée à devenir par le Christ. Nous avons ici une image dans le Christ de ce que Dieu veut réaliser pour nous. Notre humanité, si fragile, si blessée parfois, si décevante parfois par rapport à ce que nous aurions projeté, cette humanité-là est appelée à être transfigurée par la puissance de l'Esprit-Saint. C'est notre avenir. C'est notre avenir à chacun. C'est notre avenir à tous. Nous trouvons là, d'ailleurs, le moyen de nourrir notre prière lorsque nous n'en pouvons plus de notre humanité fragile, blessée, ou de fréquenter cette humanité tordue par le péché, tordue par le mensonge. Nous pouvons nous placer devant une icône de la transfiguration. Nous pouvons reprendre ce récit pour contempler cette humanité transfigurée, cette humanité vraie que le Christ nous révèle, et nous pouvons de cette contemplation retrouver de la force, retrouver de la paix, retrouver de l'espérance en cette humanité que Dieu nous a donnée et qu'il veut sanctifier. Je peux prier en disant, Seigneur, que cette lumière que tu as manifestée sur la haute montagne, peut-être sur le Tabor, que cette lumière que tu as manifestée vienne toucher mon âme, vienne toucher mon cœur pour que les blessures des ténèbres, du mal, du mensonge qui affligent l'humanité ne me fassent pas désespérer. Voici la lumière de la transfiguration, c'est elle qui donne la vérité de l'homme. Le point suivant sur lequel nous arrêter est cette présence de Moïse et d'Élie, apparus dans la gloire. Il parle du départ de Jésus qui allait s'accomplir à Jérusalem. Littéralement, il parle de l'exode de Jésus qui allait s'accomplir à Jérusalem. Jésus apparaît ainsi comme le nouveau Moïse, celui qui va faire passer le peuple non plus de l'esclavage de Pharaon à la liberté de la terre promise, mais qui va nous tirer de l'esclavage du péché et de la mort pour nous faire entrer dans la terre promise, le royaume du Père. Mais Jésus va se manifester aussi comme un nouvel Élie. Vous vous souvenez que Élie a été emporté au ciel, de la même manière que Jésus, après sa résurrection, connaîtra aussi cette ascension. Moïse et Élie nous apparaissent ainsi comme des préfigurations du Christ. Ils sont aussi chacun dans l'Écriture, Moïse pour sa part le symbole de la loi et Élie le symbole des livres prophétiques. En les voyant dialoguer avec Jésus, on comprend en fait que toute la loi et tous les livres prophétiques n'ont d'autre volonté, n'ont d'autre signification que de nous introduire au mystère du Christ. C'est de lui ultimement qu'il parlait. Notons au passage que c'est un exercice que nous pouvons faire à chaque fois que nous lisons un texte de l'Ancien Testament, c'est de nous interroger en quoi ce texte préfigure-t-il Jésus, en quoi ce texte nous parle-t-il de Jésus. Je referme cette petite parenthèse. Le dialogue de Moïse et d'Élie avec Jésus, au-delà de sa portée symbolique, nous donne aussi un élément qui est réjouissant quant à notre espérance de la vie après la mort. En effet, Moïse et Élie parlent du présent de la vie de Jésus. Ils ne sont pas figés dans leur passé, ils ne sont pas un souvenir lointain, ignorant du présent. Nous pressentons ainsi par leur intervention que ceux de nos défunts qui sont déjà auprès de Dieu ne sont pas non plus ignorants de ce que nous vivons et qu'ils nous portent réellement dans l'intercession maintenant avec les projets de nos vies à partir de là où notre vie se trouve aujourd'hui. Quand bien même nous ne pouvons pas dialoguer avec eux comme Jésus a dialogué avec Moïse et Élie, ils nous portent au présent, ils portent notre présent dans leur intercession. L'évangéliste nous donne alors de contempler la réaction de Pierre. « Seigneur, je vais dresser trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il les voyait partir et il a le désir de prolonger ce moment. Il y a donc ici une expérience spirituelle certainement d'une grande douceur, d'une grande chaleur, d'une grande joie et bonté, telle que Pierre souhaiterait la prolonger. Cependant, la transfiguration, si elle est un voile levé sur le ciel, sur la condition qui pourra être la nôtre au ciel, eh bien la transfiguration n'est pas encore le ciel. On est monté sur la montagne et il va falloir en redescendre. On ne reste pas indéfiniment sur la montagne de la transfiguration. Cela nous donne un enseignement pour notre vie spirituelle. Il y a des moments où nous avons pu avoir une très grande clarté de la présence de Dieu, une très grande clarté de son amour, et nous sommes appelés à accepter que cette clarté ne soit pas permanente. Nous sommes appelés à en faire mémoire, à le garder profondément dans notre mémoire, comme justement ce mont de la transfiguration est resté dans la mémoire de Pierre, de Jacques et de Jean, mais nous sommes appelés aussi à accepter de devoir redescendre de la montagne et de continuer à voir Jésus avec son aspect ordinaire, sans plus voir ce rayonnement. Nous sommes appelés à accepter l'ordinaire de notre prière, avec son voile, avec son apparence cachée, avec sa simplicité où l'on se demande parfois si Dieu est présent. Cela peut aussi éveiller en nous une intention de prière si jamais dans notre expérience spirituelle nous n'avons connu la clarté de l'amour de Dieu. Alors nous pouvons prier le Seigneur et le prier avec persévérance en lui demandant: Seigneur, comme tu es monté sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, et que tu leur as manifesté ta gloire, je te le demande, manifeste-moi ton amour, manifeste-moi ta tendresse, que je puisse avoir moi aussi un éclat de la transfiguration dans mon histoire, dans mon cœur. Si jamais nous n'avons eu la manifestation de la tendresse de l'amour de Dieu pour nous, il est légitime de le demander. Si nous l'avons déjà connu, alors nous sommes appelés à en faire mémoire, mais nous acceptons de ne pas demeurer sans cesse sur la montagne de la transfiguration. Tout cet épisode nous prépare à entendre la voix du Père. « Celui-ci est mon Fils que j'ai choisi, écoutez-le. » Alors que survient désormais l'annonce de la passion de Jésus, le Père nous exhorte à l'écouter encore. Il est bien celui qui l'a choisi, il est bien son Fils, sa parole est une parole de vie. Je vous souhaite de bons échanges.